Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 31 janvier 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
La Russie et la Chine bénéficient de nouvelles exemptions à l'embargo sur les livraisons d'armes à la République centrafricaine.
En République démocratique du Congo, la mission de l'ONU a été sollicitée pour contrecarrer un projet de déstabilisation du Rwanda voisin par des rebelles Hutus rwandais.
L'opposant mauritanien et militant anti-esclavagiste Biram Da Abeid va se présenter à l'élection présidentielle de juin.
Au Venezuela, des milliers d'opposants ont manifesté hier pour convaincre l'armée de lâcher le président Nicolas Maduro.
Et ici à Washington, le président Donald Trump s'en prend encore à ses propres services de renseignement.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
L'ONU a accordé à la Russie et à la Chine de nouvelles exemptions à l'embargo sur les armes imposé à la République centrafricaine, qui devrait être renouvelé ce jeudi pour un an supplémentaire par le Conseil de sécurité de l'ONU, mais peut-être pour la dernière fois. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Une nouvelle demande de la Russie concernant des armes légères et des munitions a d'abord suscité des réserves des Américains, Français et Britanniques. Paris a levé ses objections le 25 janvier, avant que Washington et Londres n'abondent dans le même sens. En 2017, la Russie avait déjà obtenu des exemptions pour livrer des armes aux forces de sécurité centrafricaines, entourées de conditions sur leur stockage et leur traçabilité. La France avait aussi bénéficié l'an dernier d'une exemption pour remettre des fusils d'assaut aux unités de l'armée formées par l'Union européenne. En 2018, la Chine a également demandé une exemption pour livrer des armes, mais elle a été longtemps bloquée, mais finalement accordée après une reformulation de la demande chinoise qui ne portait plus que sur des véhicules. Le Conseil de sécurité doit renouveler dans quelques heures, pour un an, son embargo sur les armes en Centrafrique, en dépit d'une vieille demande de ses autorités pour sa levée. Lundi, environ 3000 Centrafricains, dont le Premier ministre Mathieu Simplice Sarandji, ont manifesté à Bangui pour exiger la levée de l'embargo.
En République démocratique du Congo, la mission des Nations Unies a indiqué hier avoir été sollicité par des autorités pour contrecarrer un projet de déstabilisation du Rwanda voisin par des rebelles Hutus rwandais qui ont quitté la province du Nord Kivu vers celle du Sud Kivu dans l'est du pays. Le point avec Eddy Issango.
Leila Zerugi, chef de la MONUSCO, a affirmé hier avoir reçu une lettre du ministre congolais de la Défense sollicitant un appui des casques bleus aux militaires congolais pour contrecarrer une rébellion visant les Rwandais voisins à partir de la RDC. Le ministre congolais de la Défense, Crispin Atamatabe, note qu'il a été observé un déplacement des rebelles Hutus rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda de la province du Nord Kivu vers celle du Sud Kivu. Il serait sollicité par le général rwandais Kayumba pour former une coalition en vue d'une action belliqueuse contre le Rwanda à partir du sol congolais, signale les ministres de la Défense. La RDC sollicite ainsi l'appui de la MONUSCO au FRDC, écrit M. Atamatabe dans ses courriers daté du 18 janvier. La MONUSCO a alerté les autorités rwandaises selon Mme Leila Zerugi. Lundi, Kinshasa a indiqué avoir extradé vers le Rwanda deux chefs des FDLR, dont leur porte-parole, Bazeye Fils Laforge.
L'opposant mauritanien Biram Da Abeid a annoncé hier qu'il se présenterait à l'élection présidentielle prévue en juin et le pouvoir a confirmé la probable candidature du ministre de la Défense après deux mandats du président Mohamed Ould Abdelaziz. Le point avec John Lyndon.
Le militant anti-esclavagiste Biram Da Abeid, déjà candidat malheureux en 2014, a réitéré sa volonté de se présenter au scrutin présidentiel cette année. Élu député en septembre, grâce à une alliance entre son mouvement non reconnu et le parti d'orientation baasiste Azawab, il avait été arrêté en août pour menace contre un journaliste, puis avait été libéré le 31 décembre. Le ministre de la Défense, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, dit Ould Gazouani, sera le porte-drapeau du parti au pouvoir. Cela a été confirmé mardi par un tweet de Mohamed Ould Mahamadou, chef du parti au pouvoir, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture. Compagnon de toujours de Mohamed Ould Abdelaziz, avec lequel il a participé à deux putschs en 2005 et 2008, Ould Ghazouani, 62 ans, a été chef d'état-major de 2008 à son entrée au gouvernement en novembre. Le président sortant, Ould Abdelaziz, s'est engagé à maintes reprises à respecter la Constitution et achèvera son second mandat en août prochain.
En Éthiopie, la justice a accusé hier d'incitation à la violence. L'ancien président de la région Somalie, dans l'est du pays, a annoncé le média d'État Fana. Les accusations portées contre Abdi Mohamed Omar et 46 autres personnes font suite à 3 jours d'affrontements en août dernier, qui, selon le procureur général éthiopien, se sont soldés par 58 morts et 266 blessés. Abdi Mohamed Omar avait été ensuite limogé de son poste de président régional, puis arrêté.
Au Soudan, près de 300 enseignants et conférenciers ont manifesté hier à l'université de Khartoum pour protester contre le pouvoir d'Omar el-Béchir, a affirmé un porte-parole de ce groupe. Les manifestations déclenchées le 19 décembre par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain se sont transformées en mouvements de contestation réclamant le départ du président Béchir au pouvoir depuis un coup d'État soutenu par des islamistes en 1989. 30 personnes sont mortes depuis le début des protestations, selon un bilan officiel des ONG. Évoque toutefois plus de 40 morts.
Les recherches se sont poursuivies hier au large de Djibouti au lendemain du naufrage de 2 embarcations de migrants surchargés qui a fait au moins 43 morts. Des dizaines d'autres personnes seraient encore portées disparues. Le naufrage a eu lieu mardi environ 30 minutes après que ces bateaux ont quitté par une mer agitée la localité de Godoria, située sur la côte nord-est de Djibouti. Leur destination était le Yémen, selon l'Organisation internationale pour les migrations.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Au Venezuela, des milliers d'opposants menés par le président par intérim autoproclamé, Juan Guaido, ont manifesté hier pour convaincre l'armée de tourner le dos au président Nicolas Maduro, qui tente, lui, de serrer les rangs. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Ne tirez pas contre un peuple qui se bat aussi pour sa famille, a lancé à l'attention des militaires Juan Guaido, député de 35 ans et chef du Parlement contrôlé par l'opposition, lors d'un rassemblement à Caracas. M. Guaido exige la mise en place d'un gouvernement de transition, puis des élections libres soutenues en ce sens par les États-Unis ainsi qu'une grande partie de l'Amérique latine et de l'Europe. Peu avant cette mobilisation, Juan Guaido avait été encouragé par téléphone par Donald Trump, les deux hommes se mettant d'accord pour rester en contact régulier afin de soutenir le retour vers la stabilité du Venezuela. Nicolas Maduro, lui, crie au coup d'État orchestré par Washington pendant que la pression diplomatique des États-Unis se fait chaque jour plus insistante. Premier à accepter Juan Guaido comme président, il martèle que toutes les options sont sur la table. Washington se dit aussi prêt à livrer 20 millions de dollars en aliments et médicaments face aux pénuries dans ce pays pétrolier, mais cela passe par le feu vert de l'armée vénézuélienne. Supervisant des manœuvres militaires à Caracas, Nicolas Maduro a appelé l'armée à l'unité face aux appels à la rébellion des États-Unis et de Juan Guaido, que leur a promis l'amnistie. M. Maduro se dit prêt à discuter avec Donald Trump et à s'asseoir à la table de négociation avec l'opposition. Juan Guaido a répondu mercredi y être ouvert seulement si cela permet la fin de l'usurpation du pouvoir par le leader socialiste.
Ici à Washington, le président Donald Trump a semblé, dans une série de tweets, relancer sa vieille querelle avec les services de renseignement américains, ridiculisant leurs évaluations concernant le groupe État islamique, la Corée du Nord et l'Iran. Il les a qualifiés d'être extrêmement passifs et naïfs, leur demandant même de retourner à l'école. M. Trump, il faut le dire, a été contredit par les chefs de ses propres services de renseignement sur plusieurs des dossiers en question, alors qu'il se targue de succès indéniables depuis son arrivée à la Maison-Blanche.
Yémen, 7 Houthis ont été relâchés hier par la coalition menée par les Saoudiens au lendemain de la libération d'un premier prisonnier par les rebelles yéménites. L'émissaire de l'ONU, Martin Griffiths, a salué ce développement, se disant très encouragé par cet esprit positif de la part des deux parties. A noter que quelques heures après l'annonce de la libération des détenus Houthis, la coalition a dit avoir frappé avec force des positions rebelles et menacé d'utiliser une force plus calibrée pour contraindre les rebelles à respecter les accords conclus récemment en Suède.
En Israël, plusieurs milliers de Juifs éthiopiens israéliens ont manifesté hier à Tel Aviv contre le racisme et la brutalité policière après la mort d'un membre de leur communauté abattu par un policier. Âgé d'une vingtaine d'années, Yehuda Biadga a été tué par balle le 18 janvier à Bat Yam, au sud de Tel Aviv, sur la Méditerranée, après s'être précipité vers un policier avec un couteau à la main, selon des témoins. Sa mère, Mamia Biadga, avait appelé la police pour l'aider à maîtriser le jeune homme qui souffrait d'une santé mentale fragile. Les policiers ont fait un usage excessif de la force, a-t-elle affirmé.
Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
Au Ghana, la vente de cacao a rapporté 2 milliards de dollars en 2018, selon Ghana Web. Ce chiffre est en baisse de 19,6% par rapport à l'année 2017. Les exportations de cacao sont uniquement réalisées par la Cocoa Marketing Company, filiale du Conseil ghanéen du cacao, qui écoule plus de 70% de la récolte cacaoyère vers plus de 20 destinations à travers le monde. Le ministère camerounais des Finances a dressé une feuille de route pour la bonne exécution du budget 2019, évalué à 4 850,5 milliards de francs CFA. Le ministère préconise notamment le maintien à 20% des blocages de précaution sur les lignes de biens et services du budget de l'État et le rationnement trimestriel de l'engagement des crédits de fonctionnement à travers la fixation des quotas budgétaires. Il veut aussi mettre en place des régies d'avance en remplacement des caisses d'avance. Il compte par ailleurs interdire les déblocages de fonds pour les opérations pouvant s'exécuter par la procédure normale, ainsi que des avances de trésorerie pour des dépenses autres que celles visées dans la circulaire d'exécution, comme les salaires, pensions ou frais de justice. Terminons avec le détaillant Shoprite qui possède plus de 2800 points de vente en Afrique du Sud, mais s'apprête à subir sa plus forte baisse depuis près de 20 ans, avec un bénéfice par action pouvant baisser de 26% pour la période clôturée le 30 décembre 2018.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La CAF a effectué hier le tirage au sort des éliminatoires du CHAN 2020.
Oui, ces matchs de qualification du championnat d'Afrique des Nations se dérouleront par zone. Dans la zone du Nord, double confrontation entre l'Algérie et le Maroc, puis la Tunisie et la Libye. Les deux vainqueurs se qualifieront pour l'Éthiopie. Dans la zone IFOA A, deux tours serviront à dégager les deux qualifiés. La Guinée exempte du premier tour affrontera le vainqueur de Sénégal-Libéria. Le second ticket se décidera entre les matchs Guinée-Bissau-Mali et Cap-Vert-Mauritanie. L'UFOA B s'offre trois tickets pour ce CHAN 2020. Le Togo et le Bénin s'affronteront au premier tour avant de défier le Nigeria pour l'un des billets. On aura ensuite les rencontres Niger-Côte d'Ivoire et Burkina Faso-Ghana pour les deux autres billets. Dans la zone centre, la RD Congo jouera le vainqueur du premier tour entre la Centrafrique et le Tchad. Puis les deux autres tickets se disputeront dans les confrontations Sao Tomé-Cameroun et Guinée-Équatoriale-Congo.
Patrice Carteron, nouvel entraîneur du Raja Casablanca.
Oui, le club marocain a officialisé la nomination du technicien français en remplacement de l'Espagnol Juan Carlos Garrido, limogé lundi. L'ancien sélectionneur du Mali a signé jusqu'à la fin de la saison avec une option pour un renouvellement en faveur du champion en titre de la Coupe CAF. Déjà passé notamment par le TP Mazembe puis Al Ahly, Patrice Carteron va s'asseoir sur le banc d'un troisième cadre africain.
Un nouveau club pour El Adari.
Et oui, après son expérience de 6 mois qui a tourné court à Ismaili, la légende égyptienne de 46 ans n'a aucune intention de raccrocher les crampons. Libre de tout contrat, Essam El Adari s'est engagé en faveur de Ngom FC, actuel 13e du championnat égyptien. Il s'agit du 10e club d'une impressionnante carrière débutée en 1993.
En Europe, Strasbourg rejoint Guingamp en finale de la Coupe de la Ligue.
Oui, Strasbourg s'est qualifié pour la finale en battant Bordeaux 3-2. Il affrontera Guingamp pour le titre le 30 mars prochain. Les Strasbourgeois, double vainqueurs de la Coupe de la Ligue, rencontreront des Guingampins encore novices en Coupe de la Ligue, mais qui ont déjà gagné deux fois la Coupe de France en 2009 et 2014. Guingamp a décroché sa qualification qualification mardi au terme d'une séance de tir au but remportée face à l'AS Monaco pour le retour de Leonardo Jardim sur le banc monégasque. On finit avec du basketball. Avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Boston et Charlotte, 126 à 94. Chicago et Miami, 105 à 89. Dallas et New York, 114 à 90. Washington et Indiana, 107 à 89. Minnesota et Memphis, 99 à 97. Denver et la Nouvelle-Orléans, 105 à 99. En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La République démocratique du Congo a annoncé avoir extradé vers le Rwanda deux chefs rebelles Hutus des FDLR, dont leur porte-parole Bazaïe fils Laforge. Lambert Méné, porte-parole du gouvernement de Kinshasa, a déclaré qu'ils ont été extradés sans préciser la date de cette extradition. Idriss Fall a recueilli la réaction de Pierre-Célestin Ruhumuliza, qui vit en Norvège. Il est le frère du porte-parole des FDLR, Bazaïe fils Laforge.
Je suis choqué et sidéré, très inquiet. Il a été extradé de façon très discrète, ni vu ni connu, et ça a eu une coïncidence avec la délégation de l'Union africaine qui devrait être présidée par le président rwandais. J'ai cru que donc mon petit frère a été comme une monnaie d'échange.
Votre frère, on lui reprochait des choses en RDC pour l'arrêter. Le Rwanda le recherchait aussi, non?
Jusqu'à présent, on n'a rien dit de ce qu'on lui reprochait. Personne ne sait. Au moment même où il a été extradé, bon, discrètement, moi j'étais en contact avec un avocat à Kinshasa pour effectivement savoir de quoi on lui reprochait. Mais je n'ai pas eu cette chance. Lui non plus n'a pas eu cette chance.
Le porte-parole du gouvernement de Kinshasa, Lambert Mende, a dit que votre frère faisait des choses répréhensibles.
Mais est-ce qu'il les a citées? Parce que s'il y avait des choses répréhensibles, je ne crois pas qu'il puisse y avoir un seul secret à le cacher.
Mais les FDLR sont toujours pointés du doigt pour des attaques dans l'est du Congo, au début des incursions vers le Rwanda.
De toute façon, s'il y a ça comme infraction, ce qui m'inquiète, une fois que toute personne arrêtée ou inculpée, il y a quand même le principe d'innocence et puis il y a quand même la loi élémentaire qui est arrêtée, mais quand même déférée devant une autorité judiciaire pour savoir exactement de quoi on lui reprochait, mais ce qui n'a pas été fait.
Les FDLR, c'est une forme de rébellion qui est dans l'est du Congo depuis la fin du génocide.
Oui, mais le FDLR n'a rien à voir avec le fait que le FDLR est né dans les années 2001. Bon, de toute façon, je ne suis pas le porte-parole des FDLR. Moi, je m'inquiète du sort de mon petit frère. Tout ce que je demande, c'est que justice soit faite. Qu'on nous dise en tant que famille de quoi on lui reproche, qu'on suive la procédure normale, légale, prévue.
Ne pensez pas que la justice rwandaise pourra faire ce travail?
Je ne crois pas, parce qu'une fois qu'il a été arrêté, le gouvernement rwandais, par le biais de son ministre d'État chargé des relations avec l'Afrique de l'Est, a immédiatement annoncé que le gouvernement rwandais voulait qu'il soit déféré aux autorités rwandaises. Mais depuis qu'il a été effectivement extradé, le gouvernement rwandais a fait une sorte de silence radio. Alors ce silence dit quoi? Je ne comprends pas pourquoi les autorités rwandaises ne veulent pas accepter qu'ils l'ont bien reçu et que le cours normal, judiciaire ou légal, soit appliqué à lui en tant que citoyen rwandais. Voilà, c'est tout ce que je demande. D'abord, que le gouvernement rwandais dise où est mon frère. Et s'il y a quelque chose à lui reprocher, j'espère que quand même la loi rwandaise pourra être appliquée. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas parce que ça fait bientôt plus d'une semaine depuis qu'il a été extradé et personne ne sait où il est et personne ne sait même s'il est encore vivant.
Pierre-Célestin Ruhumuliza, le frère du porte-parole des FDLR, Bazaïe fils Laforge, extradé vers le Rwanda.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Au Congo-Brazzaville, la fédération de l'opposition appelle à la libération de l'espace politique pour qu'elle puisse mener régulièrement ses activités. Cette plateforme a annoncé la relance de ses activités malgré les obstacles posés selon elle par le pouvoir. Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Après avoir dressé un tableau péruisant du Congo, Claudine Mounari est pourtant restée optimiste, affirmant que les Congolais pouvaient vivre mieux si les dirigeants avaient fait de meilleurs choix économiques. Quasiment absente de l'espace politique en 2018, la Fédération de l'opposition congolaise annonce des grandes actions en 2019. Claudine Mounari.
En tout cas, on va trouver comment travailler, parce qu'on ne peut pas rester dans un désert et n'écouter qu'un seul son de cloche, c'est pas bon. Je crois que c'est une année de réalisation en 2019. On ne peut pas tomber plus bas qu'on était tombé. Donc je suis convaincu que chacun y mettra du sien, la Fédération fera sa part, mais il faut qu'on arrive à faire bouger les lignes.
Pour sa part, Charles Zachary Bouaou a plaidé pour plus d'espace politique pour la fédération de l'opposition, considérée parfois comme des radicaux.
Vous savez bien que nous ne pouvons pas tenir, et on l'a dit, des activités sur la place publique parce que le pouvoir ne le permet pas. Chaque fois que nous avons programmé quelque chose, nous sommes toujours précédés par la force publique. Même dans les hôtels, au palais du Parlement, ailleurs, on ne nous autorise aucune salle pour nous permettre de faire nos activités. Ça peut donner l'impression, effectivement, que nous avons disparu de l'espace public, ce qui est faux. Donc, la crise d'aujourd'hui, elle est là. Nous l'avons dit depuis. Nous continuerons à faire ce qui relève de notre pouvoir et de notre capacité de mobilisation des populations, en interpellant chaque fois les élites, en interpellant chaque fois les populations, en invitant les Congolais à être Congolais et à prendre leurs responsabilités devant l'histoire.
Les opposants ont encore appelé à la libération des prisonniers politiques. Ils ont marqué leur solidarité à André Okombi-Salissa, un opposant dont le procès s'ouvre ce jeudi à Brazzaville. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Niger, les centrales syndicales menacent de paralyser l'administration si dans 2 semaines leurs revendications sociales ne sont pas satisfaites. Déjà, les travailleurs du secteur de la justice observent un arrêt de travail de 2 jours. De Niamey, notre correspondant Abdulrazak Idrissa fait le point.
C'est une dizaine de revendications que les principales centrales syndicales du pays posent au gouvernement de Brigitte Affini.
La convocation du comité sur la réduction du prix des hydrocarbures, la création du cadre de concertation sur la réduction des prix de la téléphonie, la mise à la disposition du comité chargé du parachèvement du processus de la mise en place de la mutuelle de santé des agents de l'État, des ressources nécessaires, l'organisation de l'atelier de validation sur la révision de la convention collective interprofessionnelle.
Le gouvernement s'est pourtant engagé à satisfaire ses revendications au plus tard à la fin de l'année 2018. L'intersyndicale des travailleurs du Niger ne comprend pas cette attitude. Jibril Idrissa, coordonnateur de l'ITN.
Nous ne pouvons pas comprendre qu'un gouvernement signe librement des accords et qu'il ne soit pas capable d'appliquer au moins un point. Même la mise en place du comité de suivi n'a pas été faite. C'est-à-dire que tous les points qui ont fait objet d'accord, rien n'a été fait par le gouvernement, alors que certains points sont des points qui ne sont pas difficiles à appliquer. Et mieux, nous avons même fait une lettre de rappel au ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale le 10 janvier, mais là aussi sans réaction. C'est ce qui a amené l'ITN à donner un délai de 2 semaines au gouvernement pour appliquer tous les points arrivés à échéance. Après les 2 semaines, bien sûr, l'ITN va user de tous les moyens légaux pour se faire entendre ou pour satisfaire ses revendications.
Les agents du secteur de la justice, eux, n'ont pas attendu la fin de cet ultimatum de l'ITN, le syndicat national des agents de la justice, composé essentiellement des greffiers des tribunaux, a appelé ses militants à observer dès ce mercredi un mouvement de grève de 48 heures. Madame Sani Essata Garba, membre du SNAJ.
Entre autres, on peut vous citer, par exemple, l'adoption de la grille salariale qui, normalement, après l'adoption des statuts, on doit adopter une nouvelle grille salariale parce que qui dit statut autonome dit nouveau traitement indiciaire. Malheureusement, de 2015 à aujourd'hui, le gouvernement ne s'est jamais comporté en bon responsable. Et comme il n'y a pas de grille salariale, récemment, nos camarades ont été recrutés. Ça fait aujourd'hui 8 mois, ils n'ont reçu aucun copec, ils n'ont même pas été mis en solde, à plus forte raison, recevoir leur salaire. Imaginez-vous, si on veut un meilleur rendement, si on est vraiment conscient de ce que la justice joue dans un pays, le greffier n'est pas à négliger. Je précise qu'il s'agit d'une grève d'avertissement.
Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Enfin, et selon une récente étude de l'organisation Greenpeace, l'air dans les mines de charbon en Afrique du Sud est le plus pollué du monde. 12 grandes mines de ce pays produisent des émissions toxiques de dioxyde d'azote, ce qui ruine la santé et la vie autour de leurs installations. Reportage d'Anita Powell, repris ici par Michel Joseph.
Patrick Ndouli a développé des problèmes pulmonaires peu après son déménagement à Medelberg, au milieu des mines de charbon d'Afrique du Sud.
Les mines, la poussière, la pollution, vous allez chez le médecin, ils vous disent la même chose. Vous vivez près d'une mine, oui. Vous vivez à côté d'une décharge, oui.
La zone charbonnière sud-africaine est l'arrière-cour de Ndouli. L'année dernière, cette région agricole a reçu une malheureuse distinction. Greenpeace l'a classée comme ayant la pire qualité de l'air au monde. Le docteur Mohamed Tayob, directeur du centre médical Bamba Naani, une des principales cliniques de Medelberg.
Les enfants et les adultes payent le prix ultime. Lorsque je dis prix ultime, c'est la perte des développements neurocognitifs. La mortalité infantile est plus élevée dans notre région que dans d'autres. Chez les adultes, les chiffres de crise cardiaque et de malaise respiratoire sont beaucoup plus élevés. Donc, les gens payent de leur vie et à tous les niveaux à cause de la pollution de l'air.
Dr Tayob pointe un doigt accusateur sur les mines de charbon et la mauvaise gouvernance. Les habitants accusent les compagnies minières d'avoir fait très peu pour améliorer la vie de la communauté. Dr Mohamed Tayob, du centre médical Bamba Naani.
One cannot be faulted in thinking.
On ne peut reprocher à personne de penser. Y a-t-il un certain niveau de corruption dans cette zone où les gros poissons s'étirent littéralement d'affaires à bon compte? C'est juste la réalité. Je voudrais que quelqu'un vienne contester ce fait et me contredire.
La VOA a contacté les trois plus grandes mines de charbon de la région pour les faire réagir, mais aucune n'a voulu répondre. Bafana Latchwayo, militant écologiste du réseau Justice Environnementale, se bat pour que cette région, très ensoleillée, se tourne vers une ressource énergétique plus propre.
Nous ne disons pas que nous voulons fermer les mines. Nous devons utiliser les énergies renouvelables. Nous disons qu'il faut que les gens fabriquent en Afrique du Sud des panneaux solaires qu'ils sont supposés installer et entretenir.
C'est un rêve très lointain pour Ndouli et ses voisins, qui subissent de plein fouet un chômage élevé et tous, y compris les enfants, ont des problèmes de santé. Pourtant, cette région était belle. William Djiyane, un autre militant écologiste.
Maintenant, pour Malanga, c'est une agonie sans fin. Ce n'est plus du pain et du beurre. C'est une agonie sans fin.
Le charbon alimente le réseau électrique sud-africain, ce qui le sauvegarde économiquement. Mais pour les communautés vivant à l'ombre des mines et qui manquent de tous les services de base, comme l'électricité ou l'eau courante, les progrès semblent très lointains.
Ce jeudi, dans Washington Forum, gros plan sur le terrorisme au Burkina Faso. Deux nouvelles attaques ont fait 14 morts dans la province du Soum cette semaine. Les incursions djihadistes se multiplient dans ce pays jadis épargné par le terrorisme. L'état d'urgence, décrété dans plusieurs régions, peine à prouver son efficacité et le président a limogé mi-janvier le chef d'état-major de l'armée. Qui sont les terroristes qui opèrent au Burkina Faso? Que revendiquent-ils? Que manquent-ils à ce pays pour leur faire face? Morgane Diriek en votre compagnie. On en discute ce jeudi à 19h30, temps universel.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VO Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VO Afrique.